Je suis très contente de vous présenter Madame Pauline Breton de l'Université de Paris 10. Madame Breton, vous êtes docteur en histoire contemporaine et littérature. Vous avez soutenu une thèse à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre La Défense autour de la pensée de Georges Duhamel et spécifiquement de la genèse et de l'élaboration d'une civilisation morale, au fond comment l'expérience de guerre a influé sur la pensée de Georges Duhamel. Donc vos travaux interdisciplinaires portent sur la compréhension des enjeux éthiques, philosophiques, métaphysiques inhérents au conflit du XXe siècle. Je vous passe donc la parole pour une communication qui s'intitule « Pensez les plaies, pensez la paix », P-A-N-S-E-R et P-E-N-S-E-R, « Médecins, écrivains et savants lettrés dans l'envers de la guerre », 1914-19. Je vous passe la parole.
Je vous remercie Isabelle. Je tiens tout d'abord donc à remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à y participer, même si malheureusement j'ai raté une bonne part des communications. Donc mon étude va lier le rapport à l'être souffrant et le rapport à la paix autour d'une problématique qui touche à l'histoire des mentalités, des représentations, qui est en quelle mesure la présence et l'action sanitaire auprès des blessés de guerre ont-elles influé à la fois sur le contenu sémantique de l'idée de paix et sur les formes de sa défense pendant la Première Guerre mondiale. Donc je ne parlerai pas en fait du tout de la sortie de guerre. Donc afin de répondre à cette question, j'ai restreint mon analyse, c'était nécessaire pour un travail aussi restreint dans le temps, à plusieurs trajectoires types qui me paraissaient les plus aptes en fait à représenter la diversité de l'exercice médical, des cadres d'exercice médical en zone de front, et à révéler l'empreinte en fait de cette diversité de cadres d'action sur le spectre des réflexions amorcées autour de la guerre. Donc à travers les parcours de guerre de Georges Duhamel, que vous avez ici présent, Luc Durtin, Élie Faure et Marie Curie, j'interrogerai d'abord la genèse en fait de l'engagement aux armées, afin de déterminer la part d'influence d'un socle déontologique commun et le poids de l'adhésion à certains segments de la culture de guerre. Donc je verrai notamment comment l'évolution dans l'envers sanitaire de la guerre a donné lieu à des approches transtemporelles, métaphysiques et biologiques de l'homme qui ont, selon moi, incubé une conception renouvelée de la paix et de ses formes prosélytiques. Donc je vais d'abord m'interroger sur l'existence éventuelle d'une attitude que j'appelle une attitude socratique qui serait commune en fait aux quatre personnes que je vous ai présentées. Donc les préceptes d'Hippocrate, je le rappelle, lient étroitement l'art de guérir à une vie de dévouement au chevet des souffrances des hommes. Donc l'homme devenu médecin, normalement, cesse d'être à soi pour se consacrer jusqu'à sa mort à l'humanité souffrante. Donc ce credo éthique, on le voit notamment dans les thèses de la fin du XIXe siècle, innerve toujours de façon déterminante l'apprentissage médical des XIXe et XXe siècles. Toutefois, son assimilation et sa mise en pratique vont beaucoup varier selon la personnalité du praticien, la force de sa vocation aussi, la charge morale et l'enjeu métaphysique qu'il attribue à son pouvoir curatif. Donc ainsi, Georges Duhamel se présente lui-même, je le cite, comme un pèlerin d'Hippocrate, et il n'aura de cesse en fait de valoriser l'art de guérir et de soigner comme un devoir qui est essentiel et sacré. Il n'en va pas exactement de même pour Élie Faure, qui obtient sans enthousiasme, on le voit dans les correspondances qu'il adresse notamment à Franz Jourdain, il obtient sans enthousiasme son diplôme de docteur en médecine en 1899. Donc devenu médecin de quartier, il va envisager d'abord son activité comme une assise lucrative sur laquelle sa vie d'homme de lettres et d'historien de l'art pourra se déployer en toute liberté. Donc entre l'approche humaniste de Georges Duhamel et l'exercice presque prosaïque de la profession médicale, Luc Durtin, de son vrai nom André Nepveu, va ouvrir une voie intermédiaire. Donc au départ, c'est un médecin otorhino-laryngologiste, Et sa dilection pour les lettres va être encouragée par la fréquentation de l'abbaye de Créteil, qui va être cofondée par Georges Duhamel. Et cette dilection va progressivement prendre le pas sur sa vocation initiale. Donc en août 1914, il va y avoir une dialectique vraiment intrinsèque, même souvent conflictuelle, on le voit surtout chez Georges Duhamel, entre l'adhésion au moins partielle à la culture de guerre, l'intention préalable à l'engagement volontaire ou à la mobilisation aux armées, et le rapport au devoir hippocratique. Donc je restitue la genèse de l'engagement de Georges Duhamel, donc qui est d'abord réformé en fait en raison de rhumatisme articulaire, et qui va se rendre dès le mois d'août 1914 à l'hôpital Bégin, qui existe toujours à Saint-Mandé, quelques jours après la déclaration de guerre, afin de signaler sa volonté d'être incorporé dans l'armée active. Il éprouve alors un besoin impérieux de partager le sort des hommes de son âge, non pas en tant que combattant, mais en qualité de médecin. Et la conviction de servir les idéaux de justice, de paix et de liberté, qui sont très rattachés à l'idée d'une guerre de civilisation contre la prétendue barbarie germanique, va venir s'ajouter à sa volonté de, et là je cite Duhamel, de prendre part à l'événement aux côtés de ses compatriotes. Donc à ce moment-là, au moment de son engagement, Duhamel croit fermement en l'idée d'une guerre expiatoire qui permettra, selon lui, d'acquérir la paix, et là je le cite, au prix de toutes les tristesses possibles. Donc Élie Faure, qui lui est beaucoup plus imprégné de philosophie nietzschéenne que Duhamel, va juger au contraire naïf ceux qui croient lutter pour la civilisation et la paix. Donc Élie Faure va lui entrer dans la guerre avec une intention différente, celle de découvrir et de voir au sens esthétique du terme, je rappelle qu'Élie Faure est un historien de l'art, il veut voir à l'œuvre l'instinct de puissance de l'homme. À l'instar du philosophe Hegel, il estime que toutes les formes de la guerre révèlent, et là je le cite, la trempe des peuples et sont en cela au service de la vie qu'elles exaltent et portent au sublime. Donc belliqueuse en apparence, cette approche masque en fait son sentiment fondamental et tragique de la non-signification du monde. Encore une fois, on sent vraiment cela en fait dans le ton de ses correspondances juste avant son engagement en août 1914. Donc Georges Élie Faure dit lui-même « Et la guerre est peut-être faite pour ennoblir la masse des humains en élevant sa conscience jusqu'au sentiment de cette éternelle tragédie du destin. » Donc mobilisé comme médecin en août 1914, la participation confiante au conflit d'Élie Faure va s'adosser à la conviction que la victoire sera rapide, comme beaucoup d'autres, et que la guerre durera 3 ou 4 mois, pas plus. Donc Luc Durtin, lui, va se démarquer d'Élie Faure et de Georges Duhamel par la faible densité idéologique et intellectuelle de son engagement dans les formations sanitaires de l'avant. Il faut bien le dire, c'est d'abord l'ennui et la vacuité de la vie de garnison qui va l'inciter à précipiter son affectation au sein d'une ambulance. Donc dans les lettres qu'il adresse à Georges Duhamel, il va déplorer n'avoir vécu, je le cite, qu'en marge de la guerre, dont la vraie limite c'est celle du danger de mort. Donc à l'image d'une grande partie du corps médical français, et là c'est, je reprends l'analyse de Stéphane Audouin-Rousseau, son devoir est surtout dicté par l'obligation morale inhérente à la dispense de tuer, et aux sacrifices consentis par les combattants. Enfin, je passe à l'engagement de Marie Curie, qui bien évidemment exige une étude distincte de celle des médecins cités précédemment. Tout d'abord parce qu'elle n'est pas, proprement parlée, médecin. De plus, son statut de femme l'exonère quand même, il faut bien le dire, des obligations martiales et morales qui pèsent sur le genre masculin. Elle assimile bien la doxa d'une Allemagne belliciste, on le lit dans les lettres qu'elle adresse à sa fille Irène, mais son action au sein du service de santé aux armées va d'abord répondre en fait à un devoir patriotique, c'est vraiment le terme qu'elle emploie, qui va se nourrir en fait de la contrainte douloureuse de l'exil. Puisque je rappelle que Marie Curie, née Maria Słodowska, est d'abord polonaise et elle a quitté donc son pays à ce moment-là qui était convulsé et en proie aux rivalités des empires voisins. Donc en août 1914, à l'Institut du Radium qu'elle dirige, Marie Curie va s'appliquer, et là je réemploie son expression, à trouver une ligne d'action qui va lui permettre de remplir au mieux, je la cite de nouveau, son devoir de solidarité avec la cause commune. Donc ayant constaté l'inadaptation et le manque de préparation des formations sanitaires aux besoins réels de l'armée, elle va contribuer significativement, vous le savez tous, à la réorganisation et au perfectionnement des services de radiologie et de radiothérapie. Elle va aller jusqu'à se rendre à proximité des lignes secondaires, une quinzaine de kilomètres des premières lignes, pour mettre en place les dispositifs nécessaires et former le personnel de santé à leur utilisation. Elle va ainsi s'astreindre à ce que j'appelle le précepte de la sagesse socratique, selon lequel, et là je rends à César ce qui est à César, celui qui a choisi un poste parce qu'il le jugeait honorable doit y rester quel que soit le danger et ne considérer ni la mort ni aucun autre péril. Et parce que cette attitude fait sens et légitime une fonction, la fonction curative en la sacralisant, cette conduite remodèle les contours de l'idée de paix ainsi que le cadre temporel de sa défense. Désormais hissé au sommet des priorités morales et humaines, le devoir de soigner et de sauver va l'emporter sur l'abstraction et le prosélytisme d'une notion que l'on va considérer chargée d'utopie et qui est battue en brèche par les événements immédiats. Donc Élie Faure, Georges Duhamel et Luc Durtin vont se laisser absorber dans l'œuvre, et là je reprends la très belle expression de Georges Duhamel, du penseur de plaies qui est aliénante par son intensité et sa technicité croissante. Donc Georges Duhamel, médecin et major de deuxième classe, qui va d'abord être affecté à l'ambulance 9-3, puis à l'autochir 16, ne pourra, et il le dira lui-même dans les lettres qu'il adresse quotidiennement à son épouse, dépasser l'horizon de ce qu'il appelle le colloque singulier qu'il entretient avec les moribonds et les convalescents. Donc il se décrit lui-même comme un bon ouvrier en chair humaine, et cette description en fait s'aggrave à mesure que la médecine de guerre va s'industrialiser et se dépersonnaliser. Donc on constate que tandis que le geste se perfectionne, la conscience, elle, s'érode. Donc des actions similaires vont se dégager de la correspondance entretenue par Élie Faure, qui est alors comme médecin aide-major de première classe, affecté à l'ambulance numéro 1 du 6e corps d'armée, donc il est dans un cadre assez similaire à celui de Georges Duhamel. Donc tout en assurant préférer, je le cite, ce rôle actif à celui de médecin d'hôpital, Élie Faure reconnaît perdre la notion de l'heure et de la durée et de l'être. Immergée dans l'envers sanitaire de la guerre, Marie Curie va faire preuve de la même rigueur d'automate lorsqu'elle va équiper ses unités radiologiques, qu'elles soient fixes ou mobiles, et préparer les blessés à l'examen sous rayon X. Donc alors que le temps de la guerre s'étire et que les désastres humains s'amoncellent, l'incursion sensorielle et mentale de l'activité sanitaire agit en fait comme un viatique hypnotique par lequel la conscience va se soustraire à une réalité trop dirimante. Donc Élie Faure va d'ailleurs avouer « Ce travail machinal me fait un bien infini. » Donc dans ce contexte, la réflexion sur la paix va résulter d'une interrogation beaucoup plus large sur l'homme qui va s'inspirer du kaléidoscope humain engendré par les violences de guerre, mais également par les prospections antérieures au conflit. Donc tout en confortant leur position intellectuelle d'avant-guerre, Élie Faure, Luc Durtin et Georges Duhamel vont établir de façon très explicite une corrélation entre leur vision de guerre et le renouvellement de paradigme par lequel ils envisagent l'idée de paix. Donc l'individu en état de souffrance est désormais le prisme d'analyse et de vérification des grands concepts éthiques, ce qui favorise en fait un rapprochement ontologique entre l'homme et la guerre, et cette dernière est désormais considérée comme intrinsèque à la nature humaine. Donc Luc Durtin va écrire ainsi à Georges Duhamel: une des certitudes que la guerre m'aura données, pardon chèrement, beaucoup trop chèrement vendue de force, en double car je les avais déjà, celle qu'elle m'a fait réacquérir, qu'il faille la paix et la différence de la nature, soit, mais l'homme est principal, quoi encore que la guerre n'existe pas, que la paix est, que la guerre est une bien pauvre, bien méprisable partie et apparence de l'autre notion. Élie Faure aborde également la guerre et la paix comme l'envers et l'avers du même tissu humain, mais va en tirer une conclusion qui est éthiquement inversée, puisque Élie Faure, lui, perçoit la guerre comme régénératrice, non expiatoire, et potentiel instrument de vie tout-puissant. Donc on le voit, si elle n'est pas temporisée par un optimisme métaphysique, la conflictualité qui serait immanente à la nature humaine, selon Élie Faure, fragmenterait l'être et nécessiterait une libération de l'instant de puissance. C'est ainsi que la guerre deviendrait pour Élie Faure, et là je le cite, une admirable école d'énergie et de fatalisme. Donc confronté à ce qu'il appelle le spectacle tolstoïen de la guerre, je le cite à ce pêle-mêle sordide de gens hâves, sanglants en loques, Élie Faure admet que cette phase de la guerre est effroyable et qu'il contemple là le suicide de l'Europe. Néanmoins, pour lui, cette guerre aurait eu pour mérite de raviner l'écorce en fait superficielle des êtres, l'apparat du conformisme social, en dévoilant leur nature authentique, leurs instincts, leur relief véritable, ainsi que les sources élémentaires de la vie humaine. Par des termes relativement similaires, Georges Duhamel va exprimer une opinion partiellement distincte dans ses prolongements. Il juge bien la guerre comme un phénomène interne à l'homme, comme conséquence de son déficit moral, mais la guerre se dévoile à lui dans ses extrêmes et ses paradoxes fondamentaux. Mais plutôt que de conclure, comme Élie Faure, à une forme de fatalité nihiliste de la condition humaine, il va tirer de ce constat le prétexte d'une recherche de transcendance. Donc Duhamel ne croit pas en une guerre régénératrice mais expiatoire, et de ce fait n'exalte pas les vertus martiales, mais va opter dans ses récits de guerre pour le dolorisme. Donc je renvoie la Vie des martyrs, son premier récit de guerre. Donc malgré ces différences de regard, tous subissent la menace d'une dérédiction qui est étroitement corrélée à l'enjeu vital de leur action. Dans ce cadre, la résilience parfois inattendue de la chair humaine va irriguer en fait des formes de reflux de conception vitaliste chez Élie Faure et Georges Duhamel. Donc je vous rappelle la définition du vitalisme. Donc cette énergie vitale primaire serait d'abord en fait une idée, mais une idée saisie par l'instinct, une affirmation de la réalité métaphysique qui serait insaisissable par l'intelligence humaine, mais que Élie Faure et Georges Duhamel pensent avoir perçu au contact de cette chair humaine qui se renouvelle et qui arrive à ressusciter dans des formes de néant très, très proches. Je termine. Donc en réaction à l'affaissement idéologique et à l'absurde des ravages de la guerre, Duhamel va se détourner des constructions positives mais dévitalisées de la raison, parmi lesquelles la paix, pour louer la vie en tant que puissance sentie et non connue. Donc en conséquence, la paix va lui apparaître, durant le temps de sa mobilisation, comme une belle chose superflue au regard de la vie qui se conserve, se perpétue et se renouvelle avec, il faut bien dire, une remarquable plasticité dans un contexte d'affliction extrême. Donc cette assertion s'appuie aussi sur une vision qui est organiciste des grands mouvements humains et qui est encouragée par l'interaction d'une biologisation de la pensée et la force d'évocation métaphorique de l'écrivain. Donc là, c'est très, très clair dans cet extrait de la Sainte Face, de la correspondance d'Élie Faure, mais qui sera repris sous une autre forme dans la Sainte Face, où il compare en fait la guerre à un phénomène de régulation biologique qui serait inévitable et cyclique, et qui serait indispensable à la régulation, à la restauration des équilibres vitaux. Pardon. Donc pour Élie Faure, jouer de force plus forte que lui, l'individu en fait ne serait pas plus apte à déclencher la guerre qu'à réinstaurer la paix. Donc astreint à l'allègement quotidien de la souffrance en multitude, Marie Curie, Luc Durtin, Élie Faure et Georges Duhamel, comme tant d'autres, vont incarner le primat, un primat consenti de l'action sur l'élévation de la pensée. Donc les enseignements, les conséquences de l'action sanitaire leur démontre en fait que les dégradations de la chair vont appliquer à court terme une menace vitale qui est bien plus supérieure au péril engendré par la déchéance des valeurs morales et des idées absolues telles que la paix. Donc tous vont œuvrer comme dans la guerre, comme dans une temporalité suspendue, où le geste et la parole vont changer de sens et de destination, pour se confronter dans un rapport parfois dichotomique. Donc la main qui soigne et qui éprouve le contact direct de la vie qui lutte va tendre à mépriser en fait les réflexions désincarnées d'un esprit hors sol. Donc c'est pourquoi une réaction semblable va animer Georges Duhamel, Luc Durtin et Guy Fort à l'égard des protestations anti-bellicistes publiques, notamment le célèbre appel de Romain Rolland au-dessus de la mêlée. Donc tous se demandent pourquoi vouloir élever l'homme en tant qu'entité morale toujours plus haut alors que l'être de chair a été placé si bas. Donc selon Elie Faure, l'humanité n'a que faire de crier en faveur du prosélytisme d'un prêche tolstoïen raté, et là je le cite. Georges Duhamel, lui aussi, est importuné, il trouve le texte beau, mais n'est pas approprié, l'époque ne se prétend pas, selon lui, à la libre discussion des idées. Donc comme le prolongement naturel d'une double vocation redimensionnée par la force de métamorphose des circonstances de la guerre, les médecins écrivains vont s'efforcer, là je reprends l'expression d'Elie Faure, d'agir le cri en valorisant en fait une corporéité de la tension vers l'équilibre et vers la vie qui va converger parfois vers des idées qui sont des idées pacifistes mais qui sont refoulées en marge de la pensée par les exigences pragmatiques immédiates. Donc transformer la force de résilience manifestée par les blessés de guerre et saisie par, et là je cite Bergson, les données immédiates de la conscience en un langage universel accessible, va être une forme importante de l'engagement intellectuel des médecins écrivains cités. Plus qu'une action contre la guerre, il s'agit surtout d'une volonté de contrer l'emprise de la mort et du néant sur l'être vulnérable et périssable qu'est l'homme. L'écriture va alors dépasser l'art et la littérature et va devoir recueillir et figurer les sources inaliénables de la vie, incorruptibles par les violences extrêmes inhérentes à la guerre. Donc pour conclure, il semblerait que l'action sanitaire mise en œuvre dans un contexte d'affliction extrême favorise, dans la temporalité immédiate, de façon synchronique, un décloisonnement de l'antagonisme guerre-paix. Ces deux idées a priori contraires ne font plus sens dans l'épaisseur de l'être de chair qui souffre et lutte pour sa sauvegarde. Donc en temps de guerre, nos médecins écrivains vont amorcer un repli sur la vie, ce que Paul Husserl appelle la révolution hébétique, dont cette vie, dont le flux et le reflux font la force ou la faiblesse même du courage. Plus cette réduction hébétique sera forte, plus la charge éthique inhérente à l'idée de paix sera lourde lors de la sortie de guerre. Je vous remercie.